Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Marie-Christine de Heuvels. Je suis très heureuse de recevoir dans ce studio aujourd'hui Anne Boussicot-Ménéra, qui est prédicatrice laïque dans notre paroisse. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la fidélité de Dieu, et ceci à partir de l'histoire de Noé.
Bonjour à tous. Noé est un personnage universel, probablement le plus connu de la Bible. Tous les enfants, même ceux qui n'ont guère de culture religieuse, connaissent l'histoire de l'arche pleine d'animaux. Alors, l'histoire de Noé et du déluge, est-ce une histoire pour endormir les enfants? Bien sûr que non. C'est évidemment aussi une histoire pour les grands. Et quant au monde corrompu du temps de Noé, est-ce une évocation démodée? Bien sûr que non. Nous pouvons sans doute aussi nous reconnaître dans ces circonstances qui se répètent régulièrement dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, des récits de déluge, on en trouve dans bon nombre de mythologies, de l'Égypte à la Mésopotamie et dans bon nombre de civilisations même éloignées de cette région, comme chez les Amérindiens ou en Chine. Alors je vous proposerai comme musique aujourd'hui plusieurs extraits d'une cantate de Saint-Saëns qui s'appelle « Le déluge » et vous verrez que la musique est assez expressive même si les extraits sont courts. Vous entendrez d'abord la colère de Dieu, puis la montée des eaux et la mort de tout être et le retour au silence à la fin. Écoutez donc ce que raconte la Bible.
Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car tu es le seul juste que je vois en cette génération. Tu prendras 7 couples de tout animal pur, un mâle et sa femelle, et d'un animal impur, un couple, un mâle et sa femelle, ainsi que des oiseaux du ciel, 7 couples, mâle et femelle, pour en perpétuer la race sur toute la surface de la terre. » Car dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé se conforma à tout ce que le Seigneur lui avait prescrit. Noé était âgé de 600 ans quand eut lieu le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre. À cause des eaux du déluge, Noé entra dans l'arche et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui remue le sol. Couple par couple, mâles et femelles vinrent à Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait prescrit à Noé. 7 jours passèrent et les eaux du déluge submergèrent la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, au 17e jour du mois, ce jour-là, tous les réservoirs du grand abîme furent rompus et les fenêtres du ciel furent béantes. La pluie se déversa sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé entra dans l'arche avec ses fils, Sem, Cham et Japhet, et avec eux la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, ainsi que toutes les espèces de bêtes, toutes les espèces de bestiaux, toutes les espèces de petites bêtes qui remuent sur la terre, toutes les espèces d'oiseaux, tout volatile, toute bête ailée. Ils vinrent à Noé dans l'arche, couple par couple, de toute créature animée de vie. C'était un mâle et une femelle de toute chair qui entraient. Ils entrèrent comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Le Seigneur ferma la porte sur lui. Le déluge eut lieu sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux furent en crue, formèrent une masse énorme sur la terre et l'arche dériva à la surface des eaux. La crue des eaux devint de plus en plus forte sur la terre et sous toute l'étendue des cieux, toutes les montagnes les plus élevées furent recouvertes par une hauteur de 15 coudées. Avec la crue des eaux qui recouvrirent les montagnes, expira toute chair qui remuait sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, toutes les bestioles qui grouillaient sur la terre, et tout homme. Tous ceux qui respiraient l'air par une haleine de vie, tous ceux qui vivaient sur la terre ferme moururent. Ainsi le Seigneur effaça tous les êtres de la surface du sol, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel. Ils furent effacés. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient dans l'arche avec lui. La crue des eaux dura 50 jours sur la terre.
C'est une histoire qui semble bien universelle. Peut-être est-elle liée à un événement climatique catastrophique réel, mais peu importe au fond. Universelle sans doute, mais ce qui importe ici, c'est de se demander ce que la façon dont la Bible en parle a de spécifique. Et pour moi, l'histoire de Noé et du déluge, conséquence de la colère de Dieu, ne peut se comprendre qu'à la lumière de ce qui précède, qu'en remontant plus haut dans ce livre, en fait, dès le chapitre 6, puisque là on a lu au chapitre 7, dès le chapitre 6, voire même dès le début. Vous connaissez tous ce début de l'histoire, je ne vais donc pas vous la relire. Dieu avait créé un monde beau et bon, très bon même. Le projet de départ était d'organiser, de donner forme au chaos, de séparer les différents éléments en leur attribuant à chacun un lieu, un rôle, en donnant du sens. Dieu a séparé la lumière des ténèbres, les astres de la nuit de celui du jour, les eaux d'en haut et celles d'en bas, les animaux et les végétaux divers, chacun selon son espèce, et enfin l'homme de Dieu lui-même. L'homme créé comme une image de Dieu, introduit comme un invité de marque dans un monde préparé au préalable à son intention, mais qui n'est pas Dieu. L'homme dans une relation qui lui laisse un espace de liberté, en particulier la liberté d'être faillible. Si le chiffre 7 représente la perfection, et vous avez pu remarquer en écoutant la lecture tout à l'heure que ce chiffre 7 est utilisé à plusieurs reprises, le chiffre 6 au contraire montre bien l'incomplétude. L'homme a été créé au sixième jour. C'est donc que la création n'est pas terminée, que c'est peut-être à lui de finir l'ouvrage. Le commandement qui lui est adressé est de continuer à mettre de l'ordre, de se comporter en bon jardinier. L'homme est responsable du devenir de la création. Or, l'œuvre créatrice de Dieu est déjà défigurée dès le début de la Genèse. Le spectacle est devenu désolant. C'est véritablement un échec de la création. Et c'est la déception. Je vous propose quelques versets du chapitre 6.
Alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que des filles leur étaient nées, les fils de Dieu virent que les filles d'hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles de leur choix. Le Seigneur dit « Mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme, étant donné ses erreurs. Il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » En ce jour, les géants étaient sur la terre, et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur.
Les habitants du ciel, les fils de Dieu ou encore ceux qui invoquent Dieu, désignant peut-être les descendants de Seth, fréquentent les filles des hommes, sans doute dans cette même interprétation les filles des descendants de Caïn, ceux qui cherchent à posséder. Et de leur union naissent des créatures qui n'avaient pas été prévues dans le plan de départ, qui résulte d'un mélange, alors que Dieu avait séparé ce qui devait l'être. L'ordre organisé au moment de la création n'est pas respecté. On assiste à une régression car les distinctions fondamentales sur lesquelles reposait la création ont disparu. L'humanité a perdu le sens. Un peu comme si à nouveau, comme au temps d'Adam, elle voulait rejoindre Dieu, s'élever à son niveau, devenir elle-même Dieu. Il s'est construit une société sans différence ni distinction, où l'homme ne cherche qu'à satisfaire ses envies. Et cela débouche sur le retour progressif au chaos, sur la violence qui règne partout. Alors Dieu reprend la main. Si j'avais su. En somme, il a perdu son pari. Il avait fait le pari de laisser à l'humanité sa liberté, et celle-ci l'a mal utilisée. Comme un père, il lui avait tout donné, il l'avait éduqué du mieux qu'il avait pu, mais l'enfant s'est rebellé contre les choix de son père. Le déluge apparaît alors comme un acte de décréation. Dieu veut détruire son ouvrage qui le déçoit. D'ailleurs, quelques détails l'indiquent bien. Par exemple, rappelez-vous, au deuxième jour de la création, c'est-à-dire au chapitre 1, pour séparer le ciel et la terre, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et voici ce qui arrive ici, au verset 11, « Tous les réservoirs du grand abîme furent rompus, c'est-à-dire toutes les sources d'eau souterraines jaillirent, et les fenêtres du ciel furent béantes, autrement dit, les écluses du ciel s'ouvrirent », autre traduction. Le déluge annule donc cette séparation. Il en est le négatif, en permettant aux eaux supérieures de retrouver les eaux inférieures. C'est beaucoup plus qu'une pluie ou une inondation exceptionnelle, c'est un retour à la situation de chaos et de mélange d'avant la création, avant que Dieu n'y mette de l'ordre. Cette histoire est désespérante et sinistre. Comment alors ai-je pu vous annoncer au début que le thème d'aujourd'hui était la fidélité de Dieu ? Oui, cette histoire serait parfaitement désespérante s'il n'y avait pas Noé. Or, Noé trouva grâce. Cette grâce ne tient qu'à un fil. Noé, nom qui signifie repos, est la consolation de Dieu et évite la destruction complète. Trouva grâce, cela signifie que le sauvetage du monde ne dépend même pas de ses mérites, ou de ses seuls mérites en tout cas, mais de la volonté de Dieu de recommencer avec l'humanité. Il reprend la main, mais pas complètement. Là encore, comme il avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il se montre beau joueur et laisse une chance à sa création. À nouveau, il parie sur elle, il rend possible encore et toujours un nouveau départ. Dans le désespoir de Dieu et son regret d'avoir créé, affleure une grande nouvelle. Dieu choisit de récidiver et sa relation avec l'humanité se réorganise dans sa patience et sa bienveillance. Il se repent d'avoir créé, et quand même confirme la vie au milieu de la destruction. Il faut dire que cette solution, tout noyée, représentait un beau constat d'échec. La tradition rabbinique raconte d'ailleurs que Dieu a attendu le plus longtemps possible. Il n'a pris le décret funeste qu'après avoir laissé encore 120 ans s'écouler, le temps que Noé construise son arche, 120 ans avant que ne tombe la première pluie, 120 ans que les contemporains de Noé auraient pu mettre à profit pour s'interroger sur les raisons de son travail et pour se repentir. Mais finalement, non. Alors le déluge s'abat sur la terre. Voici cependant un détail plein de tendresse. Dieu ferme lui-même la porte. On pourrait imaginer que c'est pour être sûr qu'ils ne s'échapperont pas, pour les emprisonner. Mais je préfère y voir un geste de sollicitude. Encore une fois, comme avant de refermer la porte de l'Éden et d'y placer des chérubins en sentinelle, il avait revêtu Adam et Ève de tuniques en peau de bête. Maintenant, avant de déchaîner les grandes eaux, il s'assure que la porte est bien fermée, qu'ils sont en sécurité. Il est en colère, mais il prend soin de leur bien-être. Tout ce qui se mouvait sur terre périt. Tout ? Non, car la colère de Dieu n'est jamais complète. Il y a des rescapés de l'amour de Dieu. Il garde un reste, et pas seulement des espèces pures. Vous avez peut-être remarqué que le nombre de couples qui rentrent dans l'arche varie selon les espèces. 1 pour les animaux impurs et 7 pour les animaux purs. Et non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas que les animaux purs ont plus de droits, plus de chances de s'en tirer. C'est seulement que c'est parmi les animaux purs que Noé pourra prélever des offrandes et des sacrifices qu'il offrira à l'Éternel en remerciement. Donc il en faut plus au départ. On peut penser que néanmoins tout cela ne fait pas beaucoup. Quantitativement, certes, mais qualitativement, c'est énorme. La biologiste que je suis dit « oui, une bonne partie des individus disparaîtra, mais toutes les espèces vivantes sont conservées ». Dieu demande en fait à Noé de garder un échantillon de tout ce qu'il avait créé. Après tout, il l'avait évalué comme bon et même comme très bon. Et ça me rappelle les pédigrés des chiens où les catégories sont bon, très bon, excellent, etc. C'est complètement en contradiction avec sa décision de départ de détruire toute sa création, comme si cette décision avait été prise sur un coup de colère, comme Dieu se montre humain dans ce récit. L'humanité est sauvée et maintenue, mais pas seule. Elle a besoin pour survivre de sa relation avec l'ensemble de la création, à ce moment-là, comme d'ailleurs maintenant. On peut se demander en quoi Noé a-t-il montré qu'il est juste et que Dieu a fait le bon choix en s'adressant à lui. Eh bien d'abord, il est capable d'obéissance. Il faut en effet une bonne dose de soumission et de confiance pour se lancer dans la construction d'un bateau au beau milieu de la terre ferme sur une simple parole. Il est aussi capable de persévérance. Toujours en reprenant la tradition, 120 ans ont passé avant que ne gronde le moindre orage, et puis il lui a fallu s'occuper de tous les animaux pendant un temps dont il ne pouvait pas prévoir la fin. Et encore, il sera capable d'espérance lorsqu'il ouvrira la fenêtre et lâchera la colombe. Aujourd'hui, on pourrait dire que le monde tente à ressembler une fois de plus à celui d'avant le déluge, avec une perte des repères, une perte des différences, une uniformisation de la culture, le culte des héros de la performance physique, comme les géants d'autrefois, des explosions de violence, une façon d'user de la création à notre profit au risque de sa destruction par nous-mêmes cette fois. Nous sabotons la création. Aujourd'hui, comme Dieu a eu besoin d'un auxiliaire pour sauver sa création, il a besoin de nous pour être une arche d'espérance. Il accepte de nous utiliser, tout imparfait que nous soyons. C'est par les justes que le monde peut être sauvé. Si le monde ne sombre pas complètement dans la barbarie et le chaos, c'est parce que des humains, au cours de l'histoire, se sont montrés et se montrent encore capables d'obéir à la parole de Dieu, capable de persévérance et capable d'espérance, malgré la confusion et la violence qui menacent. Un juste, c'est-à-dire un qui reste fidèle, suffit pour redonner espoir en l'avenir et ne pas abandonner le monde. Un juste suffit pour que continue l'histoire commune de Dieu et de l'humanité, de Dieu et de sa création tout entière. Quelle est finalement alors la spécificité de ce récit de la Genèse ? C'est la foi en un Dieu qui est fondamentalement un Dieu juste et non pas un Dieu arbitraire, et dont la volonté est d'apporter aux hommes le salut. Il demeure un Dieu de grâce et non pas un Dieu de toute puissance. Ce récit n'est que l'un des tout premiers de nombreux cycles où se succèdent bonté de Dieu, faute, chute, pardon et relèvement, on pourrait dire résurrection, et qui parsème toute la Bible jusqu'au dernier où il envoie son Fils pour nous donner le salut. Ceci est une autre histoire, me direz-vous. En êtes-vous bien sûr ? Pas tant que cela, bien entendu. Dieu est toujours fidèle. Peut-être est-il temps d'en tenir compte et de réagir ou d'agir en conséquence. Le pardon éternellement accordé et renouvelé doit finir par produire un effet, une contrepartie en quelque sorte, même si Dieu ne joue pas au donnant-donnant. Alors, je voudrais terminer par une formule très très célèbre. Dieu est fidèle, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix. Paix aux hommes qu'il aime, selon une traduction, ou aux hommes de bonne volonté, selon une autre. Paix aux hommes de bonne volonté, à tous les Noé de la terre auxquels il veut du bien. Encore une autre traduction. Amen.
Pour terminer cette émission, je vous propose de prier avec un texte de Christine Durand-Lès, Dire sa foi. Je ne crois pas en un Dieu cruel qui regarde froidement la souffrance de ses créatures. Mon Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je ne crois pas en un Dieu sourd qui ferme l'oreille aux supplications des hommes en prière. Mon Dieu dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Je ne crois pas en un Dieu orgueilleux, tyran régnant sur des foules à genoux. Mon Dieu dit, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Je ne crois pas en un Dieu inaccessible, retiré dans sa perfection. Mon Dieu dit, quand une femme oublierait son nourrisson, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je ne crois pas en un Dieu comptable, pesant sur une balance le poids toujours trop léger de nos pauvres œuvres. Mon Dieu dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je ne crois pas à un Dieu justicier, condamnant l'humanité jugée à l'enfer. Mon Dieu dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Mon Dieu, je t'appelle Abba, Père. Amen. Anne, merci beaucoup de nous avoir parlé de Noé aujourd'hui et du déluge avec cette musique qui accompagnait si bien. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel et nous vous donnons la parole sur notre page Facebook. Réagissez, commentez, faites-nous part de vos coups de gueule ou de vos coups de cœur et surtout, restez connectés à l'actualité de votre radio préférée.
Radio Grand Ciel. La radio qui rapproche les hommes.
Thank you.